Le tour de table culturel de ce samedi matin, ça sent bon le déconfinement. Ils sont en train de revenir en studio avec moi, Nicolas Caro et puis Angèle Châtelier sont là. Bonjour, Diane Chénaudin. Elle est toujours sur Céline, mais elle est bien présente quand même. Bonjour Diane.
Oui, absolument. Bonjour Bernard.
C'est vous qui commencez, Angèle Châtelier. Alors, c'est une sorte de quiz. Il est très barbu, il se cache sous des lunettes. On lui doit la ritournelle. C'est l'un de ses morceaux les plus connus. Il s'agit de Sébastien Tellier, qui a défendu, me semble-t-il, nos couleurs à l'Eurovision. Et il revient cette semaine avec un nouvel album.
Alors très différent de la ritournelle justement. Quelle belle chanson. Alors ce sixième album appelé Domesticated, ce sont 8 titres cosmiques, très organiques, dans lesquels il utilise du vocodeur, cet outil technique qui permet de faire moduler sa voix, de la rendre plus aiguë. Et c'est vraiment ce qu'il avait en tête pour ce nouvel album. De Sébastien Tellier ne s'appelle pas Domesticated pour rien, il est devenu un homme domestiqué, dit-il, un homme au foyer.
Comme nous tous, voilà. Angèle, vous le savez.
Père de 2 enfants et finalement, lui qui nous a habitués à se mettre dans la peau de 2 personnages, à se dénaturer, il n'a jamais été autant lui-même.
Je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, ça a bouleversé ma vie parce que tout d'un coup j'ai dû faire des biberons, j'étais responsable de petits tout mignons. Tout souriant, plein d'amour et tout ça, donc tout ça, tout d'un coup, je pouvais plus être le même mec qu'avant, quoi. J'ai dû me métamorphoser. Et moi, j'ai toujours été obsédé par la métamorphose et tout ça. Là, en fait, c'est formidable parce que je découvre que je vis 2 vies en même temps maintenant. D'un côté, je suis père de famille, responsable, les pieds sur terre, et d'autre côté, je suis un artiste, et puis là, plus du tout responsable. C'est plusieurs vies à la suite, mais 2 vies en même temps.
Alors ce ton de cet album, cette ambiance très robotique, peut rebuter au départ. Mais alors plongez-vous intensément dans ces 8 titres, vous allez y trouver du réconfort, de la bizarrerie et beaucoup de poésie.
Ça vous plaît, hein, réconfort, ouais. Bizarrerie et poésie. Avec donc Sébastien Tellier, qui effectivement était pour la France à l'Eurovision en 2008. Et il a terminé 18e, le pauvre, sur 25. À peine né. Vous étiez bel et bien né, Nicolas Caro. Et ça vous a permis ces derniers jours de lire le dernier bouquin de Bernard Minier, roman qui est paru chez XO Éditions, qui s'appelle La Vallée, et qui vous a bien plu, me semble-t-il.
8e roman et 6e aventure de son héros fétiche, Martin Servaz. Alors, il n'a pas le moral, le commandant de police. Il est suspendu, il attend son conseil de discipline à cause de ses méthodes un peu expéditives. En attendant, il s'occupe de son fils Gustave. Une nuit, il reçoit un appel de Marianne, son ex-compagne, disparue 8 ans plus tôt. Elle capte mal, mais elle a quand même le temps de lui expliquer que donc elle n'est pas morte, qu'elle s'est évadée et qu'il faut qu'il vienne la chercher et que surtout, il n'appelle pas la police.
Mais où est-elle?
C'est le problème, elle sait pas. Dans une forêt, dans une vallée, c'est un peu court, mais Martin Servaz lui demande de dire ce qu'elle voit exactement et elle a vu une abbaye un peu plus loin, elle voit une rivière maintenant, avec quelques autres détails, ça fait tilt pour Servaz, elle est dans une vallée des Pyrénées qu'il connaît bien. Il fonce, mais sur place, aucune trace de Marianne. Alors ils demandent de l'aide aux moines d'une abbaye à proximité. Ils font leur possible, mais ils ont un côté un peu mystérieux. C'est des moines, quoi. Parallèlement, des crimes sont perpétrés. Alors, pour les crimes, il s'est lâché, Bernard Minier. Je ne vous les décris pas, il est un peu tôt. Bref, ce qui n'arrange
c'est
rien,
gore, quoi.
Ouais, c'est qu'un pan de montagne s'effondre. Étrange écho à la réalité, la vallée se retrouve confinée. Bernard Minier.
J'ai imaginé toutes les émotions, tous les états d'esprit, tous les états d'âme par lesquels on passe quand on est coupé du reste du monde, enfermé et qu'on ne peut plus se livrer à ses activités habituelles. Et donc la tension monte encore plus parce qu'ils sont faits comme des rats, ils peuvent pas s'en aller. Tout prend des proportions extraordinaires.
Voilà, et la tension ne cessera de grimper jusqu'à l'épilogue. On se détend un peu à la fin quand même, en se doutant quand même qu'il faudra bientôt reprendre son souffle pour une nouvelle aventure de Martin Servaz.
Voilà, une nouvelle aventure du commissaire fétiche de Bernard Minier dans La Vallée, chez XO Éditions. Le choix donc du camarade Nicolas Caro et le choix de Diane Chénouda en ce qui concerne les musées. Puis moi j'ai un polar aussi paru chez Gallmeister, un polar américain. Tout cela c'est dans un petit instant et Diane elle est ravie parce qu'elle a pu aller voir les grandes toiles de Turner au musée Jacquemart-André qui vient de rouvrir. À tout de suite.
Europe 1. De 6h à 9h le week-end, vous retrouvez Bernard Poirette sur Europe 1.
On reprend ce tour de table culturel avec vous, Diane Chenouda, qui êtes allée voir les aquarelles et les toiles du grand peintre anglais Turner au musée Jacques Marandré. Il vient de rouvrir ses portes ces jours-ci à Paris.
Oui, absolument, et c'est un soulagement pour tous les fans de Turner de voir ses œuvres en vrai, comme on dit. Mais attention, réservation et masque obligatoire, le musée ne laisse entrer que 60 personnes par heure, 3 fois moins que d'habitude, c'est donc des conditions idéales de visite. On est ébloui dès les premières salles par la beauté de ses œuvres de jeunesse, paysages noyés dans la brume, lacs, forêts, montagnes d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles, car Turner a beaucoup voyagé, y compris en France et en Italie. On le voit aussi ici avec ses vues spectaculaires de Venise, des couleurs fantastiques, une Venise fantomatique à la limite de l'abstraction. C'est quand même incroyable, cette modernité pour un peintre de cette époque, fin 18e, début 19e.
Ce qui est exceptionnel dans cette expo, c'est qu'il y a tout de même une 60aine d'aquarelles et une 10aine de toiles, et presque toutes ces œuvres sont inédites. On les a jamais vues à Paris.
Mais oui, c'est complètement fou. Elles proviennent toutes du Legg Turner, vous savez. Turner avait tout donné à la Tate Britain à Londres, et donc c'est un événement en effet, car elles ne sortent jamais ces aquarelles, et elles sont évidemment remarquablement conservées. Alors, je vous le disais, Turner voyage, mais il ne travaille pas en plein air, ça aussi c'est prodigieux. Il dessine et il peint à l'atelier. Tout ce qu'on voit là est inspiré de ses croquis de voyage et de son imaginaire, comme le confirme Pierre Curie, le conservateur du musée Jacques Marandré.
Toutes ces aquarelles sont pratiquement faites en atelier, parfois plusieurs mois après ses voyages. Donc on reste stupéfait de sa mémoire visuelle, de sa capacité à s'imprégner suffisamment des lumières qu'il a vues, des effets lumineux qu'il a perçus dans tel ou tel paysage, pour les retranscrire ensuite à l'aquarelle dans son atelier à Londres.
Comme de très belles vues du Mont Blanc, également de Honfleur. Il y a une aquarelle d'une subtilité, enfin elles sont toutes hyper subtiles, mais il y a l'arrivée de ce grain sur la manche, c'est quasi abstrait. Les peintures aussi sont très très fortes, de l'océan en tempête, on s'y croirait.
L'expo Turner, donc à voir en vrai, ras-le-bol du confinement, oui. Au musée Jacques Marandré à Paris, et ce sera jusqu'au 11 janvier, ce qui nous laisse ma foi un petit peu de marge.
Vous avez aussi de la marge. Mais oui, parce que l'expo a été prolongée, justement.
Forcément, toutes les expos sont prolongées, forcément, Diane, puisqu'elles se sont arrêtées et suspendues pendant 3 mois. Je vous plante le décor de mon polar de la semaine, qui m'a beaucoup plu, ma foi. Nous sommes dans les Bull Mountains, dans le Montana. C'est un coin absolument impitoyable, étouffant en été, glaciaire en hiver, et c'est là que vit Wendell Newman. Bon, c'est un parmi des millions d'Américains, avec quelques centaines de dollars en banque à peine, un mobilhome pour appartement, et puis de la bière au frigo, mais rien d'autre. Il survit en louant en fait son travail aux fermiers du coin, mais c'est un brave type, il est bosseur, il est pas bagarreur. Un jour, l'assistante sociale du comté débarque avec au bout du bras un gamin de 7 ans, qui s'appelle Roddy, il est chétif et mutique. Sa mère vient d'être incarcérée pour trafic de drogue. Et c'est une très vague cousine de Wendell qui, du coup, hérite du gamin. Et ça, c'est vraiment pas une sinécure, croyez-moi. Le môme est de toute évidence traumatisé. Il ne décroche pas un mot, il ne s'intéresse à rien, sauf à la chasse. Et dans ce domaine, la traque du loup, comme chacun sait, dépasse toutes les autres en prestige. Et justement, pour la première fois depuis plus de 30 ans, le gouverneur de l'État a autorisé une chasse au loup. Tous les fusils du Montana sont de sortie, bien sûr, y compris ceux des cinglés des milices séparatistes dont l'idole a perdu la vie il y a fort longtemps lors d'une autre chasse au loup, celle-là totalement illégale. Et ce chasseur rebelle d'antan, c'était Verl Newman, le père de Wendell. La boucle est donc bouclée et le sang va couler. Une nouvelle fois, un auteur américain inconnu et débutant réussit un coup de maître. Celui-ci s'appelle Joey Wilkins et son roman « Ces montagnes à jamais » coche bien des croix dans les cases, comme on dit. Histoire authentique et palpitante, personnage très puissant, écriture efficace. C'est assurément à lire. Ces montagnes à jamais de Joey Wilkins est paru aux éditions Gallmeister. Sur ce, mes amis chroniqueurs, je vous souhaite une bonne fin de week-end.
Bon
chacun
week-end.
Dans votre spécialité, écoutez
Salut.
Bien de la musique.
Oui.
Allez voir des expos et lisez des bouquins avec Caro. Bon week-end à vous.